Sonia Bacquès, bonjour.
Bonjour.
Merci de répondre à l'occasion au lendemain de la signature de ce projet d'accord qui a été conclu à Bougival. Il y a eu aussi la séquence à l'Élysée. Qu'est-ce que vous en retenez et quels sont les mots qui vous ont marqué de la part du chef de l'État?
Je pense que le chef de l'État est heureux et soulagé que l'initiative qu'il a prise ait permis d'aboutir. Il a rappelé les grands principes qui étaient les siens et notamment celui de respecter le résultat des trois référendums d'une part et d'autre part d'offrir des perspectives de stabilité à la Nouvelle-Calédonie. Donc, je considère que le projet d'accord qu'on a trouvé répond à ces feuille de route que vous avez transmise.
Justement, cette feuille de route, ce projet d'accord, qu'est-ce que les Calédoniens doivent en retenir aujourd'hui?
Plusieurs choses, à mon avis, fondamentales. D'une part, le fait que la Nouvelle-Calédonie reste dans la République, puisque c'est un État dans l'ensemble national. Donc, effectivement, on peut retenir le terme État, on peut retenir également que c'est dans la République française. Le deuxième élément, c'est le fait qu'il n'y a plus de référendum couperet. C'est quand même une situation qu'on n'a plus connue depuis 88, puisqu'on a toujours une échéance en perspective de nouveaux référendums, de fin d'un accord. Là, on est dans un accord pérenne et on n'a pas de référendum d'autodétermination à l'issue. Donc on est dans la République, on n'a pas de référendum d'autodétermination à l'issue. Et l'autre élément fondamental, c'est la question de la réouverture du corps électoral, puisque dès 2026, les personnes présentes depuis 15 ans pourront voter et qu'à partir de 2031, les personnes présentes depuis au moins 10 ans pourront voter, en plus des natifs et des conjoints. Ça, c'est un élément important. En ce qui nous concerne, on est aussi quand même satisfait que le Congrès ait été rééquilibré, puisque je rappelle que la province sud, qui représente 75% de la population, ne disposait que de 59% des sièges au Congrès. Dans le projet d'accord, ça repasse à 66%, donc c'est quand même plus conforme à la situation actuelle. Et la question du pouvoir des provinces a été complètement traitée, puisque les provinces ont la capacité de fixer des impôts, des taux d'imposition et de mettre en place la politique fiscale et économique qu'elles souhaitent. Ça, c'était un élément important pour nous.
Effectivement, ça c'est les éléments que vous aviez demandé. Après, il y a les questions, les points qui vont faire débat, on imagine. D'abord, la Calédonie devient un État, alors un État intégré au sein de la République, un État sui generis. Est-ce que ce terme n'est pas un peu dangereux? Est-ce qu'on n'est pas proche de l'État associé ou est-ce que c'est un État fédéré? Pourquoi utiliser ce terme?
Non, c'est ni un État fédéré, ni un État associé. C'est vraiment un État sui generis dans la République. Donc, c'est effectivement une nouveauté. C'est quelque chose qui n'existe pas. On a eu l'occasion d'échanger avec des spécialistes des questions constitutionnelles. C'est évidemment une nouveauté. C'est évidemment quelque chose qui n'a pas été vu, mais ça reste, dès l'instant où c'est effectivement très clair pour tout le monde, un État à l'intérieur de la République française. Ça pose de difficultés à personne, en fait, d'un point de vue juridique, cette dénomination au sein de la République.
Autre originalité, c'est la création d'une double nationalité française et calédonienne. Là aussi, ça va heurter un certain nombre de Calédoniens, sans doute.
Oui, je comprends très bien, c'est pas notre souhait à la base. Simplement, ce que je veux dire, c'est que cette nationalité calédonienne, en fait, n'enlève rien aux Calédoniens qui veulent rester français, parce que, en fait, elle se situe aux côtés d'une nationalité française, c'est-à-dire que les Calédoniens gardent leur passeport français, leur citoyenneté européenne. Et en fait, la nationalité calédonienne, c'est tout simplement la citoyenneté d'avant. Et ils étaient citoyens, ils sont aujourd'hui nationaux. Et en fait, on ne peut pas avoir, par exemple, que la nationalité calédonienne. La nationalité calédonienne, elle est forcément adossée à la nationalité française.
Parmi les autres questions, il y a celle qui concerne les transferts des compétences régaliennes. C'est quelque chose que les Calédoniens avaient refusé. Là, il y a un dispositif qui permet de les transférer éventuellement. C'était indispensable. C'est quoi l'objet? Est-ce que c'est là aussi une concession que vous avez dû faire?
Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, le mécanisme de transfert de ces compétences régaliennes, il permettait d'ouvrir une porte, c'est-à-dire de dire finalement, si un jour la Nouvelle-Calédonie, dans une très grande majorité, décidait de récupérer une compétence régalienne, elle pourrait le faire. Mais le mécanisme est très difficile à mettre en œuvre, puisqu'il y a trois étapes. Une première étape, qu'il faut que 64% du Congrès valide le principe de ce transfert. Qu'ensuite, l'État plus la Nouvelle-Calédonie, dans un comité ad hoc, considère que ce transfert est soutenable. Et donc, face toute l'analyse, donc on imagine bien que le jour où on aura décidé de transférer la compétence en matière de défense, ça va être compliqué de démontrer que c'est soutenable. Mais imaginons qu'on passe ces deux étapes, il y aurait une troisième étape qui serait la consultation des Calédoniens. Donc, c'est une ouverture, c'est une porte ouverte, mais c'est une porte ouverte qui est quand même très difficile à mettre en œuvre et très bardée pour éviter que, effectivement, on soit tenté de le faire régulièrement.
Vous soulignez qu'il n'y a plus de référendum d'autodétermination, c'est un accord pérenne. Le droit à l'autodétermination est tout de même rappelé dans le préambule. Est-ce que ça veut dire que les indépendantistes pourront le faire valoir et sous quelle forme? Et est-ce que c'est un point qui a été envisagé avec eux?
Alors, vous remarquerez que ce droit, il est noté uniquement sous l'angle du droit international. Il est quand même pour nous une évolution majeure par rapport à la sémantique qui était avant celle de l'État et des indépendantistes. C'est-à-dire que l'État et les indépendantistes d'abord puis l'État, disaient le droit à l'autodétermination est inaliénable et constitutionnel. Donc on a quand même réussi à démontrer qu'il n'y avait rien dans la Constitution qui obligeait à faire un référendum. Hein. Imaginons que les indépendantistes le demandent et que l'État dise non, bah, il ferait un recours et il perdrait sans doute. Donc il n'y a pas de droit constitutionnel français. Et donc le droit à l'autodétermination qui existe au titre du droit international n'est inscrit que parce qu'il existe et sans faire mention ni à son caractère inaliénable, ni au fait que la Constitution l'imposerait. C'est quand même un changement majeur dans les équilibres qui étaient trouvés par rapport à ceux d'avant.
Alors par ailleurs, vous souhaitiez plus de compétences données aux provinces. Dans cet accord, les provinces redeviennent la cellule de base, en quelque sorte, de l'organisation institutionnelle calédonienne.
Alors oui et non, c'est-à-dire que sur cette disposition-là, comme sur toutes les autres, en fait, ça dépendra de la manière dont c'est rédigé dans la loi organique. Donc on va être très attentif, en particulier avec les parlementaires qui vont avoir à examiner ça au moment du passage au Sénat et à l'Assemblée. Tout dépend de la manière dont les choses vont être rédigées. La manière dont l'accord est rédigé nous convient, c'est-à-dire qu'il nous permet très clairement et sans qu'il y ait d'opposition possible que la compétence fiscale soit exercée par les provinces. La rédaction de l'accord permet également qu'il puisse y avoir d'autres compétences transférées de la Nouvelle-Calédonie aux provinces à l'initiative des provinces. Donc, la rédaction de l'accord nous convient parfaitement bien. Maintenant, il va falloir être vigilant sur la manière dont ça se traduit dans la loi organique.
Sur la question du corps électoral, on en est à 15 ans glissants pour les premières élections provinciales, 10 ans pour les suivantes. Ça vous paraît un bon compromis ?
Oui, alors nous, on voulait moins, évidemment. On voulait revenir à 10 ans tout de suite et mettre une durée moindre sur la suite des élections. Mais on comprenait que les indépendantistes avaient, sur ce sujet-là, des comptes à rendre à leur base à la plus dure, donc c'était un sujet compliqué. On a considéré, nous, que ce qui était important, c'est que ce corps électoral soit glissant, d'une part, et d'autre part, que sur la pérennité du fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie, on ne soit pas au-dessus de 10 ans, ce qui est le cas dans l'accord qui a été signé.
Globalement, dans quel état d'esprit ça s'est passé et comment ces concessions ont été faites de part et d'autre ? Cet accord parle d'un pari sur la confiance. Est-ce que la confiance est revenue aujourd'hui entre partenaires calédoniens ?
Alors d'abord, comment c'est arrivé ? À l'issue de la première séquence à l'Élysée, on a compris que finalement, sans accord définitif, puisque suite à l'échec de Déva, il n'y avait pas d'accord définitif qui se profilait, on allait devoir tous discuter d'un nouveau référendum d'autodétermination à une durée qu'on allait passer une semaine à négocier. Eux voulaient 5 ans, nous on en voulait 25 ou 30, enfin bon. Et au final, on aurait reporté sur nos enfants, ce qu'ont fait les générations précédentes, hein, mais on aurait reporté sur nos enfants la difficulté qu'on n'était pas capable de régler. Donc à l'initiative du Rassemblement et des Loyalistes, on a demandé à nos partenaires indépendantistes de les voir pour leur proposer de retravailler sur un accord définitif sur la base de concessions réciproques qui permettraient d'éviter encore cette instabilité permanente qui était imposée par la répétition des référendums. Donc c'est à notre initiative que, dès vendredi de la semaine dernière, on a demandé à ce moment-là à l'État et au Bloc central, donc à l'Éveil Océanien et à l'Éveil Ensemble, de ne pas participer. On a trouvé des grands équilibres entre nous, qu'on a ensuite présenté à l'Éveil Océanien et à l'Éveil Ensemble. Et ensuite, finalement, le reste de la semaine a été lié à la négociation sur les différents objets des demandes respectives des uns et des autres.
Concernant le pari de la confiance, est-ce que la confiance est revenue entre vous aujourd'hui ? Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes ?
Moi, je considère qu'il y a quelque chose qui s'est brisé le 13 mai et qui ne va pas se reconstruire sur la base de cette signature. Je suis très heureuse qu'on ait signé. Je pense que c'est un pas important pour l'avenir. Mais la confiance, ça se construit brique après brique. On verra si les uns et les autres sont capables d'assumer leur signature dans un premier temps. On verra si les uns et les autres sont capables de faire campagne pour cet accord, pour la consultation qui aura lieu auprès des Calédoniens. La confiance, elle va se reconstruire petit à petit. Ce qui s'est passé, personne ne peut l'oublier, personne ne peut pardonner, pour l'instant en tout cas. Et donc, ça existe. On ne peut pas demander aux gens d'un claquement de doigts parce qu'il y a un accord d'oublier ce qui s'est passé. Ça n'arrivera pas. Mais c'est pas grave. La confiance, elle se reconstruira petit à petit avec des preuves à apporter de part et d'autre.
Un point important également dans cet accord dont il faut dire un mot quand même, c'est le pacte concernant l'aide économique, le développement économique de la Nouvelle-Calédonie. Ce sont surtout des garanties de l'État que vous avez obtenues sur ce point-là ?
Oui, mais on considère qu'on n'a pas fini la discussion là-dessus, que cet accord, il pose des grandes lignes, mais il faut que l'État accompagne très sérieusement la Nouvelle-Calédonie dans le remboursement de sa dette. Je considère que l'État doit maintenant, compte tenu du fait qu'il y a un accord, apurer nos dettes, nous accompagner d'un point de vue de l'ingénierie technique dans les réformes de dépenses publiques qu'on doit faire et lancer une politique de grands travaux. On a réévoqué la question de la construction de la prison, de la construction du viaduc du Mont d'Or, de la construction de la 2x2 voies, etc. Donc en fait, ça, l'État doit l'accompagner, doit s'engager. Je considère, et on l'a dit au président de la République, que c'est pas suffisant ce qui a été fait là-dessus.
Avec également une aide sur la filière nickel, c'est toujours l'un des points sensibles.
Oui, alors sur ça aussi, les choses sont écrites de manière un peu générique et il faudra qu'on avance un peu plus en détail sur le sujet. Là-dessus, la société civile a beaucoup travaillé et je pense que c'est aussi à eux de reprendre en partie la main sur la concrétisation de ces engagements.
Maintenant, votre priorité, ça va être de convaincre dans chacun des camps, de convaincre sa base qui va peut-être être un peu désorientée par le contenu de cet accord.
Oui, clairement, ça va être... On comprend, un an après un conflit d'une telle violence, c'est quand même difficile de faire un pas vers l'autre. Moi, je considère que cet accord est un bon accord, que concrètement, le fait de rester français, le fait de ne plus avoir de référendum d'autodétermination, le fait que le corps électoral soit réouvert, que les provinces aient le poids qu'elles doivent avoir, qu'elles aient les compétences qu'elles doivent avoir, franchement, c'est de nature à répondre aux inquiétudes de l'électorat non indépendantiste. Donc, je ferai évidemment campagne pour cet accord. Il y aura des gens qui seront contre, c'est comme ça. Ça a été le cas pour l'accord de Nouméa, ça a été le cas pour les accords de Matignon. Et puis, on avisera et on verra si cet accord est approuvé par les Calédoniens.
Il y a également tout un volet législatif, parlementaire, une loi organique pour reporter la date des élections et puis ensuite modifier la Constitution. Il y a un accord national et tous les groupes politiques, a priori, pour soutenir la Calédonie dans ce processus.
Alors, je ne veux pas m'engager pour l'ensemble des groupes. On a, les uns et les autres, été contactés par les parlementaires dont on est proche. Il y en a certains qui ont déjà donné publiquement une position, mais je ne connais pas l'avis de tous les groupes. On imagine, compte tenu de l'accord global, avoir une majorité de soutien.